De supprimer une partie assez brève que je voulais faire sur la phrase, mais il se peut que ça devienne un sujet de cours plus tard, donc n'ayons pas trop de regrets, enfin je parle pour moi. Bon, donc je suis toujours dans une espèce d'exploration de ce que j'ai appelé les passes qui peuvent permettre de sortir du haïku, puisque ça a été du haïku que nous avons parlé, sortir du haïku vers des formes, des pratiques de notation actuelles, avec à l'horizon toujours ce roman qu'il s'agit de préparer. Nous approchons ici, c'est à peu près la dernière partie de ce que je veux dire, du roman, en effet, maintenant, comme utopie peut-être, comme fantasme, comme souverain bien. Et nous approchons de la fin de ce cours. Le dernier passage, et peut-être bien sûr le plus important à mes yeux, et il concerne quelque chose qui a trait à ce que j'appelle la vérité. Je m'expliquerai bien sûr là-dessus plus tard. Eh bien, pour passer vers la vérité, ou par la vérité, ou sur le dos, sans jeu de mots, la vérité, il faut des passeurs. Et nous allons avoir ici deux passeurs de taille. Le premier, c'est Joyce, et le second, c'est bien sûr Proust. D'abord, Joyce. J'utilise ici, car en fait, je dois dire, enfin avouer, mais plus simplement dire, que je connais assez mal l'œuvre de Joyce, en le regrettant, en pensant toujours que je vais réparer ce défaut. Défaut qui tient souvent chez moi au fait que j'ai du mal, j'ai une certaine résistance à lire d'une façon vivante des auteurs qui ne sont pas des auteurs français, c'est-à-dire ayant écrit en français en raison des liens particuliers que je me sens avec la langue française comme langue maternelle. Donc je ne connais pas bien Joyce, et ce que je vais vous dire de Joyce, je le dois beaucoup aux notes d'un ami et chercheur, et un jeune chercheur et d'un ami, qui est Patrick Moriès. Tout d'abord ceci, une information biographique. De 1900 à 1903, c'est-à-dire Joyce a environ 20 ans, puisqu'il est né en 1882, et vous savez qu'il publiera Ulysse en 1922, qui, je le rappelle, est l'année de la mort de Proust. Donc, de 1900 à 1903, Joyce écrit des choses qu'on pourrait appeler des poèmes en prose, mais qu'il ne voulait pas appeler ainsi, et qu'il voulait appeler des épiphanies. Des épiphanies, et je vais dire à l'instant ce que ces épiphanies sont devenues. Alors, essai de définition de l'épiphanie. Le sens courant de l'épiphanie, vous le savez, c'est la manifestation d'un dieu. Paphaino, en grec, veut dire apparaître. Donc, une épiphanie, c'est un moment, un jour ou un instant où un dieu apparaît. Or, il ne s'agit pas de cela chez Joyce, encore que l'expérience de Joyce et toujours des liens sémantiques par son éducation jésuite avec la théologie et la philosophie du Moyen-Âge, notamment saint Thomas, dont il disait que c'était le plus grand philosophe, parce que son raisonnement est comme une épée tranchante, disait-il, et aussi de ses liens avec un autre philosophe du Moyen-Âge, Duns Scott. Non, l'épiphanie joycienne, ça n'est pas l'apparition d'un dieu, c'est, je cite, la soudaine révélation de la quidité d'une chose. Quidité, Q-U-I-2-T, 2-D-I-T-E, En anglais, whatness. Whatness. Alors, il n'est pas besoin de souligner l'apparenté avec le haïku, car au fond, la quiddité, c'est presque ce que j'ai appelé le sessa, le tilt du sessa. La quiddité, je cite ici Larousse illustré, c'est l'ensemble des conditions qui déterminent un être en particulier. L'ensemble des conditions qui déterminent un être en particulier. Alors, pour Joyce, donc, soudaine révélation de la quiddité d'une chose, ou, je cite, moment où l'âme de l'objet le plus commun nous paraît s'irradier, ou encore soudaine manifestation spirituelle. Et ceci ferait penser au Satori. Alors, quels sont les modes d'apparition de l'épiphanie, de cette épiphanie joycienne? D'abord, à qui apparaissent-elles, ces épiphanies? Eh bien, elles apparaissent à quelqu'un de très précis, qui est l'artiste. Le rôle de l'artiste est de se trouver là, parmi les hommes, à certains moments. C'est une définition belle et étrange de l'écrivain, se trouver là. L'écrivain, peut-être, effectivement, c'est ça. Ça n'est rien de plus que celui qui se trouve là, à certains moments, comme s'il était choisi par le hasard, et comme s'il était une sorte de médiateur magique de certaines révélations, je dirais une sorte de reporter spirituel. Donc les épiphanies apparaissent à l'artiste. Alors quels sont les moments épiphaniques? Eh bien, pour Joyce, ce ne sont pas des moments définis par la beauté, par la réussite de l'instant, au sens apollinien ou goethéen, ou non plus définis par la sursignifiance. Comme je l'ai dit à propos des critères du notable. Non. Ce sont des moments fortuits, discrets, qui peuvent être aussi bien des moments de plénitude et de passion, pour retenir cela pour plus tard, aussi bien des moments de plénitude et de passion que des moments vulgaires et désagréables. La vulgarité d'un geste, d'un propos, des choses qu'il importe de rejeter, des exemples de sottise ou d'insensibilité, habilement saisis, dans un échange de deux ou trois phrases, dit Joyce. Alors, troisièmement, quelle est la fonction de l'épiphanie vis-à-vis de Joyce lui-même? C'est une fonction de travail. Il pensait que l'épiphanie, la notation épiphanique, lui permettrait de contenir sa tendance au lyrisme et de rendre son style toujours plus méticuleux. Enfin, quatrièmement, un exemple d'épiphanie joycienne. Alors, naturellement, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est la définition même de l'épiphanie, que le nom extraordinaire. Le voici, je le raccourcis un peu. Là-haut, dans la vieille maison aux sombres fenêtres, lumière dans la petite chambre, obscurité au dehors. Une vieille femme s'affaire à préparer le thé. J'entends de loin ces paroles. J'entends, c'est l'artiste, c'est Joyce. J'entends de loin ces paroles. Est-ce Marie-Hélène? Non, Elisa, c'est Jim. Oh, bonjour, Jim. Désirez-vous quelque chose, Elisa? Je croyais que c'était Marie-Hélène. Je croyais que tu étais Marie-Hélène, Jim. Fin de l'épiphanie. Alors, que sont devenues ces épiphanies de Joyce? Eh bien, il y en a un recueil, dans une édité, n'est-ce pas, au sens américain du terme, c'est-à-dire réunie par A.O., par Arsène Oscar, je suppose, Silverman, Université de Buffalo, 1956. Mais on ne sait, tout au moins moi je ne sais pas, si le recueil a été agencé par Joyce lui-même, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a cueilli les épiphanies de Joyce et puis en a fait un recueil. Car la pensée explicite de Joyce sur ces épiphanies est la suivante, c'est qu'en 1904, il renonce à utiliser ces fragments tels quels et décide de les inclure dans un roman. C'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup, c'est exactement notre problème. Il décide de les inclure dans un roman qui est ou qui sera Stephen le héros. Et il, comme il dit, il s'agit, je cite, « d'agencer ces spasmes isolés de psychologue » et « spasme », c'est un mot merveilleux, c'est le mot qui fait tilt, n'est-ce pas, c'est le haïku, c'est le satori, c'est l'incident, le spasme. Il s'agit d'agencer ces spasmes isolés de psychologue en une chaîne organisée de moments où l'âme prend naissance. Et au lieu donc d'être l'auteur d'œuvres courtes, il écrit à un ami, alors, non, il n'écrit pas à un ami, mais disons c'est un ami qui parle de lui, il, c'est-à-dire lui, Joyce, devait les déverser sans rien en perdre dans des œuvres de longue haleine. C'est la formulation très exacte du problème qui est posé par le cours. Le cours, pas seulement de cette année, mais en principe de plusieurs années. Alors, cette expérience joycienne des épiphanies, personnellement, m'importe beaucoup, car elle est tout à fait adéquate à une recherche personnelle ou à la recherche personnelle d'une forme analogue que je ne peux pas évidemment appeler des épiphanies, mais que, avant d'ailleurs, bien avant de connaître les épiphanies joyciennes, j'appelais pour moi-même des incidents, ce qui tombe sur les incidents. Et c'est une forme, l'incident, c'est une forme que j'ai déjà personnellement expérimenté par bribes, je dirais d'abord dans Le plaisir du texte, ensuite dans le petit livre illustré que j'ai écrit sur, entre guillemets, moi, et aussi dans Le discours amoureux, et aussi dans un texte inédit sur un séjour au Maroc, et maintenant, je dirais, d'une certaine façon, dans les chroniques du Nouvel Observateur. C'est dire que je trouve autour, par intermittence, mais avec insistance, des problèmes qui sont proches des problèmes joyciens, et que j'éprouve depuis longtemps les difficultés et les attraits de cette forme brève qui est l'épiphanie pour Joyce et pour moi l'incident. Les affinités avec le haïku sont évidentes, même si évidemment ce n'est pas la même philosophie, ou plutôt la même religion. Il est évident que je ne me suis occupé si longuement du haïku que par rapport à l'incident. Ce n'est pas le haïku en soi qui m'a retenu, c'est cette notion d'incident, c'est-à-dire de choses qui tombent sur, de phrases qui vous tombent sur. Et c'est la même problématique du sens dans le haïku et dans l'incident. Dans le haïku, l'épiphanie et l'incident, tel que je le projetais, c'était un événement immédiatement signifiant. Et en même temps, qui n'aurait aucune prétention à un sens général, systématique et doctrinal. Ce pourquoi, sans doute, n'est-ce pas, refus du discours nappé, repli sur le pli, la meilleure transformation sémantique d'incident, ça serait le mot pli. C'est un pli, un incident. Et repli, donc, sur le fragment discontinu. Et cela rappelle ce que le biographe de Joyce, Hellman, dit des épiphanies et de leur homogénéité au roman moderne. Il dit que les épiphanies renvoyaient à une technique arrogante et humble tout à la fois, car elle prétend à l'importance tout en ne prétendant à rien. Alors, la conséquence rigoureuse, mais aussi ce qui fait la spécialité, donc la quiddité et la difficulté, c'est que, à la fois du haïku, de l'épiphanie et de l'incident, c'est la contrainte du non-commentaire. Une épiphanie, un incident ou un haïku, c'est là où il n'y a pas de commentaire. C'est là où le commentaire est forclos. Et le commentateur de Joyce dit, à propos de Joyce, la technique épiphanique cherche une présentation si aiguë qu'un commentaire de l'auteur serait une intrusion. Et il y a une extrême difficulté, ou peut-être un extrême courage, je ne sais pas encore bien, à ne pas donner le sens ou un sens à ce qu'on rapporte, à ce qu'on note. Priver de tout commentaire, la futilité de l'incident rapporté se découvre à nu. Et assumer la futilité, c'est toujours courageux. Ainsi, non pas ainsi par rapport au courage, mais ainsi par rapport au problème du sens du commentaire, je dirais que, bien que ce soit confidence personnelle, que les chroniques du Nouvel Observateur, à cause du cadre qui est celui d'un grand hebdomadaire qui a tout de même à peu près 500 000 lecteurs, il ne m'est pas paru jusqu'à présent possible de donner des incidents sans les affubler d'un sens. Alors qu'en réalité, mon projet profond, le projet qui me tient à cœur, serait de donner des incidents sans les commenter, sans leur donner un sens. C'est-à-dire sans leur donner une moralité. Or, en fait, soit manque de courage, soit manque de talent, soit manque d'expérience, soit manque de patience, je n'ai pu jusqu'à présent donner à 500 000 lecteurs des petits incidents sans moralité. Et c'est pourtant ce que j'aurais voulu faire. Et de ce point de vue, donc, ces chroniques, c'est-à-dire du point de vue, de mon point de vue à moi, ces chroniques sur ce point sont un échec. Mais aussi, je dirais, cela m'a appris à supporter l'échec et à le comprendre. Une fois de plus, n'est-ce pas, il y a un énorme conditionnement de l'Occident à donner à tout fait rapporté l'alibi d'une interprétation. Nous sommes conditionnés à faire signifier les choses et les faits, parce que peut-être nous sommes une civilisation de prêtres. Nous interprétons, nous ne supportons pas des formes de langage courtes au sens de l'expression tourner court ou de l'expression usée par Cyrano de Bergerac, c'est tout, c'est un peu court, jeune homme. Nous ne supportons pas les formes de langage courtes et les formes brèves, car chez nous, toute forme doit être sursignifiante. Et si elle est brève, elle ne peut être retenue que parce qu'elle signifie ou sursignifie, comme la maxime ou le poème lyrique. Le haïku ou ses substituts, c'est-à-dire l'épiphanie ou l'incident, nous sont en fait impossibles. D'où peut-être d'ailleurs l'échec de Joyce et la transformation de cet échec, à savoir déverser les épiphanies dans le roman et noyer l'intolérable du bref, du court, dans le récit, qui apparaît comme une sorte de médiation apaisante, sécurisante, l'élaboration d'un grand sens, d'un destin. Et je renvoie à ce que disait autrefois Lévi-Strauss, de la fonction dialectique du mythe, c'est-à-dire d'une certaine façon du récit, qui permet de supporter et de dialectiser les contradictions. Voilà donc la première chose concernant la vérité, c'est la quidité. L'épiphanie, la quidité. Deuxième médiateur, non plus Joyce, mais Proust. Comme passeur, Proust nous introduit à deux problèmes qui existent chez Joyce, mais dans un autre style d'expérience. Le premier problème, j'en ai déjà parlé, je l'ai annoncé et je vais décevoir puisque je ne vais pas le traiter, cette année en tout cas. Vous savez que Proust ne s'est jamais intéressé à la forme brève. Son écriture spontanée était tout le contraire d'une forme brève, c'est ce qu'il appelait l'écriture au galop, c'est-à-dire qu'il avait, c'est une écriture qui a un côté intarissable, n'est-ce pas ? Et intarissable du fait même qu'il y a eu ensuite des ajouts, enfin le fameux mythe des paperolles, c'est-à-dire des choses infiniment ajoutées au premier texte. Donc, Proust est du côté de la catalyse du texte, le remplissage du texte, la catalyse, et non pas du côté de l'ellipse, la contraction. Et dans notre littérature française, les écrivains à catalyse, c'est-à-dire ceux dont les corrections sont des ajouts et non pas des retraits, sont beaucoup plus rares que les écrivains à ellipse. Pas des écrivains à catalyse, c'est-à-dire dans le fonctionnement de correction était non pas de retrancher mais d'ajouter, par exemple dans la marge, c'est surtout des gens comme Rousseau ou comme Balzac. Hein. Mais bon, le gros bataillon des écrivains français, ce sont des écrivains qui travaillent le texte dans un sens elliptique et non pas catalytique. Mais, donc, Proust n'a jamais été tenté par la forme brève, mais pendant très longtemps, il n'a écrit que des textes, sinon brefs, tout au moins limités. Des nouvelles, des articles de journaux, des chroniques, des fragments. Alors, le problème proustien, je l'ai dit, ou plutôt marcellien, parce que c'est un problème qui concerne la biographie de Proust, et dont je voulais faire la seconde partie du cours et je n'ai pas pu le faire, vous le voyez bien, qui est remis à plus tard, c'est que j'ai seulement pointé comme ça, c'est que à un certain moment, ces bouts de texte, à un certain moment de la vie de Proust, ces bouts de texte se sont fédérés. Ils se sont fédérés et une écriture longue s'est mise en mouvement. Un grand mouvement de fédération et de couler. Et à ce moment-là, la recherche du temps perdu s'est écrite sans désemparer jusqu'à la mort de Proust. C'est le thème de ce que j'ai appelé le « s'apprend », c'est-à-dire à un certain moment, ça a pris. La forme longue a pris. Alors j'ai pensé, vous le savez, que le moment décisif du « s'apprend » pouvait être daté. C'est un moment très court entre le rejet de l'essai contre Sainte-Beuve, refusé par le Figaro en août 1909, et le démarrage apparemment foudroyant de la recherche du temps perdu en octobre 1909. Et à ce moment-là, en simplifiant beaucoup, disons qu'il y a un mois absolument énigmatique où ça a pris, et c'est ce mois de septembre 1909. Alors, si on veut dramatiser la chose, on pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1909 pour que Proust passe comme ça d'une poussière de notes, d'écrits, de fragments, d'articles. En un mois, il passe vraiment au démarrage foudroyant et à la lancée de fond d'une œuvre monumentale qu'il va mener donc de 1909 à 1922, l'année de sa mort. Bon, c'était évidemment une vision simpliste et dramatisante. C'est un peu dommage parce que ça serait agréable parfois que les vies d'écrivains et surtout l'histoire de la création puissent prendre des allures dramatiques et presque policières en quelque sorte. Mais il paraît que j'ai été trop loin dans cette dramatisation. Parce que le groupe de recherche sur les manuscrits de Proust, qui s'appelle le Centre d'histoire et d'analyse des manuscrits modernes, dont le siège est à l'École normale, rue d'Ulm, m'a fait remarquer, d'ailleurs avec une extrême courtoisie, que les déterminations, n'est-ce pas, de la recherche du temps perdu sont beaucoup plus lointaines que 1909, beaucoup plus en arrière, et que par conséquent, en fait, c'est très difficile de dater avec exactitude et d'une façon ponctuelle le moment, le départ de la recherche du temps perdu. Et évidemment, à la réflexion, c'est normal, car le coup d'envoi n'a pas dépendu probablement d'une circonstance biographique, sinon on la connaîtrait, parce qu'on connaît tout de même très bien la vie de Proust. Et bien sûr, disons que le fondement biographique de la recherche, c'est incontestablement la mort de la mère, qui a eu lieu en 1905. Mais qu'il y a eu, à partir de cette mort, un travail, à la fois de deuil et de création, une transmutation des valeurs, et que la mort de la mère n'a agi qu'à long terme et à travers des relais. Et sans doute qu'en septembre 1909, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Mais probablement, il y a eu à ce moment-là le mûrissement. Hein. C'est un mot vague, mais quel autre mot employer ? Le mûrissement de plusieurs déterminations, non pas biographiques, mais disons poétiques, de création. Alors, j'ai avancé les hypothèses suivantes que je rappelle sur ces déterminations qui ont fait que l'œuvre a pris. Premièrement, la découverte par Proust d'une manière juste de dire « je », c'est-à-dire la découverte d'un ton, finalement. Et ça, ça peut se découvrir en quelques jours. Enfin, on peut rater le ton d'un livre pendant très longtemps quand on le prépare, et puis tout d'un coup, on trouve le ton. Ça peut être très rapide. Donc, premièrement, découverte d'une manière juste de dire « je », peut-être qu'au fond, il n'était pas content de la façon dont il disait « je », et puis tout d'un coup, il en a été content, c'est-à-dire qu'il a transformé son jeu, bien entendu. Le jeu de la recherche, qui, vous le savez, est un jeu très complexe, qui renvoie à la fois à Proust, à Marcel, à l'écrivain, au narrateur, etc. Bon, peut-être qu'il a trouvé quelque chose, un ton. Deuxièmement, probablement, c'est mon hypothèse, mais il paraît qu'elle n'est pas très solide, encore qu'elle ait des éléments, tout de même, de solidité, c'est que il a mis en place définitivement, c'est-à-dire d'une façon définitivement satisfaisante, un système de noms propres. Je suis persuadé que c'était très important, qu'on ne peut pas écrire de roman d'une certaine façon sans trouver les bons noms propres. Les noms propres de la recherche sont parfaits. Il n'y en a pas un seul qui soit raté. Pourtant, Dieu sait s'il y a des personnages. Cela dit, de ces noms propres, Proust avait trouvé un certain nombre bien avant 1909. Mais il est probable que les derniers noms propres, il les a trouvés à ce moment-là, et que donc il y a eu un système onomastique parfaitement satisfaisant qui s'est trouvé établi. Troisième détermination, que je suppose, la décision de changer la taille de l'œuvre projetée, c'est-à-dire de passer à une œuvre longue et une œuvre très longue. Il se peut très bien, paradoxalement, qu'on puisse avoir le courage neuf d'écrire une œuvre qu'on n'arrive pas à écrire à partir du moment où on a compris qu'il fallait l'écrire long et pas l'écrire court. Naturellement, le contraire est vrai aussi, n'est-ce pas ? Mais je veux dire que la taille d'une œuvre fait partie de son essence créative, donc fantasmer la bonne taille, c'est probablement une condition importante pour pouvoir écrire. Quatrièmement, la découverte structurale induite d'un procédé balzacien, qu'on trouve dans le Contre Sainte-Beuve, qui est le retour des personnages. C'est ce que j'ai appelé ailleurs le procédé du marcottage, n'est-ce pas ? Le marcottage, c'est un terme d'horticulture. Les fraisiers, par exemple, se reproduisent par marcottage, puisque d'une tige qui part d'un fraisier, s'implante plus loin dans la terre et forme un autre fraisier. Alors il n'y a qu'à couper et ça fait deux fraisiers. Eh bien, le marcottage, c'est quand un élément souvent très tenu et insignifiant et surtout inaperçu est disposé par le romancier, par exemple, au début, n'est-ce pas, de l'œuvre, et va ressurgir très longtemps après à la fin. Alors, dans la recherche, il y a sans cesse ce procédé de marcottage. Et c'est probablement au moment où Proust a découvert la puissance de cette technique, puissance qu'il a découverte chez Balzac, puisque chez Balzac, il y a des personnages qui reparaissent d'un roman sur l'autre, n'est-ce pas, comme par exemple Vautrin. C'est à ce moment-là, peut-être, qu'il a pu passer du fantasme de l'œuvre à sa pratique. Alors, tout cela serait à vérifier, et bien sûr, ici, l'érudition serait très utile. Et je marque, j'insiste, Proust, c'est, je dirais, un héros non héroïque, un héros non héroïque de l'aventure d'écrire. De même que le personnage principal d'Ulysse de Joyce, c'est en fait le langage, et même le petit Larousse en couleur le dit, hein. De même, l'histoire racontée par Proust est celle de l'écrire. Ben, il n'y a qu'une histoire au sens fort du terme, il n'y a qu'un récit, il n'y a qu'une anecdote, il n'y a qu'un épos, une épopée, si vous voulez, dans la recherche, qui est l'histoire de l'écrire. Il y a mille autres choses, mais la vraie histoire, c'est l'histoire de l'écrire. Alors, ça, c'est le premier problème que nous passe Proust. Le second est très différent et a quelques rapports, non pas avec la décision de Joyce de passer des épiphanies au roman, mais avec l'être même de l'épiphanie, c'est-à-dire la révélation, la restitution de la quidité, quidité, n'est-ce pas, qui vient, j'ai oublié de le dire, bien sûr, qui vient du latin quid, quoi, whatness, whatness, la quidité, la restitution de la quidité. Seulement, bien sûr, avec Proust et avec d'ailleurs d'autres romanciers dont je parlerai, il ne s'agit pas, du moins en première ligne, de la quidité des choses, des faits ou des événements, et il ne s'agit peut-être pas de quidité, il s'agit de ce que j'appellerais la vérité de l'affect. Mais une parenté, je vais revenir bien sûr là-dessus, une parenté, je dis tout de suite, comme dans le haïku, avec la quidité, c'est que ce qui est en cause ou en scène, c'est le c'est ça, c'est le tilt. Et le haïku, pour moi, c'est une sorte de propédeutique à ce que j'appelle, et dont je vais dire maintenant un mot, ce que j'appelle une expression qui probablement n'est pas bonne, que je me suis donné spontanément, ce qui fait que, comme maintenant j'ai envie de travailler avec cette expression, je ne peux pas la changer, c'est toujours très mauvais, et c'est une expression qui n'est pas très bonne, mais enfin disons que ce que j'appelle donc le moment de vérité. C'est ça donc que je veux dont je veux parler maintenant. Le moment de vérité. Hein? Alors d'une part la quidité avec Joyce, d'autre part le moment de vérité avec Proust et quelques autres. Une première approche du moment de vérité pourrait être de remarquer que le moment de vérité est un fait de lecture et non pas un fait d'écriture. C'est-à-dire que ce ne relève pas d'une technique réaliste, faire vrai. C'est le moment d'une histoire, d'une description, d'une énonciation, un nœud brusque dans le cursus de lecture d'un livre qui prend un caractère exceptionnel. Nous savons tous que quand nous lisons un livre, il y a des moments où ça se noue et où il y a brusquement une sensation d'exception. La conjonction d'une émotion qui submerge, je dirais quelquefois, il ne faut pas avoir peur de le dire, jusqu'aux larmes, jusqu'aux troubles, quoi. D'une émotion donc qui submerge et d'une évidence en quelque sorte de la représentation, de la figuration, qui imprime en nous la certitude que ce que nous lisons est la vérité. Donc, le moment de vérité, c'est d'abord ce qui, dans une lecture, m'arrive à moi, sujet au premier degré. Et je ne puis donc en rendre compte qu'en m'alléguant moi-même, ce que je vais faire d'une certaine façon. Mais il peut se trouver qu'un livre fasse lui-même état de la rencontre d'un personnage de ce livre, donc d'un personnage inventé, et d'un moment de vérité que ce personnage reçoit, bien entendu, d'un autre livre, qui est placé en abîme dans le premier. Voici deux exemples. Le premier est célèbre. Il est extrait de Dante, la Divine Comédie, l'Enfer, le livre 5, dans le second cercle de l'Enfer, qui est le cercle de la luxure. Francesca de Rimini et Paolo Malatesta sont rencontrés par le poète. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, parce que, à un certain moment de leur vie terrestre, ils ont lu ensemble les amours, ils ont fait une lecture en commun, et ils ont lu ensemble les amours de Lancelot et de Guenièvre. Hein, ce roman de Chrétien de Troyes, Lancelot du Lac, qui est l'un des chevaliers de la Table Ronde, qui a été élevé par la fée Viviane au fond d'un lac et qui s'éprend de la reine Guenièvre, qui est la femme du roi Artus. Et un certain Galeot avait favorisé l'amour de Lancelot pour Guenièvre. Peut-être ai-je le temps, tout juste. Ce n'est pas très long. De lire dans la traduction de donc célèbre, mais j'ai un lapsus bien sûr puisque c'est célèbre, d'André Pézard, qui est une traduction de la Pléiade, qui est, vous savez, en vers simili ancien, un petit peu comme le français médiéval du Perceval de Romère. Et alors, voici le passage. Bon, et puis, alors le poète dit, « Puis à eux me tourner, voulant répondre et commencer. Françoise, Francesca de Rimini, Françoise, tes martyrs me font triste à pleurer piteuses larmes. Mais dis, en la saison des doux soupirs, à quel signe et comment permis, amour, que connussiez vos incertains désirs? Et elle à moi, il n'est plus grand douleur que de se remembrer les jours heureux dans la misère, et ton docteur le sait. Mais si tu as affection tant vive à suivre notre amour dès la racine, bien sais-je l'art de pleurer et de dire. Ensemble, un jour, nous lisions par plaisance de Lancelot comme amour l'étreignit. Seuls étions, et sans soupçon de nous, à plusieurs coups, nous fit lever les yeux cette lecture et pâlir le visage. Mais seul un point fut ce qui nous vainquit, quand la riante lèvre et désirée vîmes baiser par un cypreux amant s'estuit dont il n'est sort qui me délie, la bouche me baisa, tremblant d'angoisse. Galeot fut le livre et son trouvert, et ce jour-là, nous ne l'eûmes plus avant. Eh bien, voilà, un moment de vérité pour les deux lecteurs. Il y a un autre, donc le moment de vérité ici, c'est ce qui détermine, je dirais, un passage à l'acte, puisque Francesca et Paolo s'embrassent parce qu'ils ont lu l'histoire d'un baiser. Un autre exemple serait dans Lamartine, un roman que j'aime beaucoup, qui a été un best-seller de l'époque, mais qui doit se vendre encore, puisqu'on le trouve en livre de poche, qui est Graziella. Et je n'ai pas le temps de vous le lire parce que c'est un peu disséminé, ça serait un peu long, mais vous voyez très bien le caractère projectif, ou plutôt homologique du moment de vérité. L'histoire est simplement ceci, n'est-ce pas? Graziella est une jeune pêcheuse, enfin, ou appartient à une famille de pêcheurs, et deux jeunes aristocrates français sont en séjour plus ou moins long près de Naples, sur une île, et bon, ils vont avec cette famille de pêcheurs à Procida, et là, ils sont accueillis par la famille du pêcheur. D'ailleurs, j'étais à Procida et j'ai même logé, honneur insigne, dans la maison qu'on dit être la maison de Graziella, n'est-ce pas, qui est une maison qui domine la mer et les rochers, et qui est vraiment très antique. Eh bien, Graziella, alors, pour passer les soirées, le narrateur, qui est Lamartine en fait, lit à la famille du pêcheur, en traduisant bien sûr en italien ou en napolitain, il lit un livre qui détermine les plus violentes émotions d'amour chez Graziella. Ce livre, c'est Paul et Virginie. Et il y a tout un récit de la façon dont, effectivement, certains épisodes de Paul et Virginie fonctionnent comme, pour Graziella, comme des moments de vérité. Alors, pour en venir à moi, ou en revenir à moi, j'ai dit que, en ce qui me concernait, je l'ai dit, je crois, une fois, il y a longtemps, deux moments de lecture, en tout cas, se sont imposés comme moments de vérité. Le premier, c'est la mort du vieux prince Bolkonski dans Guerre et paix de Tolstoï, dans la vieille propriété où les Français menacent d'arriver, n'est-ce pas, c'est du temps des guerres napoléoniennes. D'un instant à l'autre, les derniers mots de tendresse du vieux prince avant de mourir à sa fille Marie, avec qui il a eu pourtant toujours des rapports apparemment assez hargneux, quand il lui dit ma chère, mon amie, etc., c'est très beau. Les scrupules de la fille, de Marie, à ne pas déranger toute la nuit précédente de sa mort, alors qu'en fait le prince l'appelait, etc. Naturellement, parenthèse, mais ceci, comme l'exemple suivant que je vais donner, c'est un moment de vérité qui ne, à proprement parler, ne reproduit pas la mort cruelle d'un être cher. Ce n'est pas une copie réaliste de ce qui est arrivé. Ça peut très bien précéder le deuil effectif. C'est donc pas sur le plan de la copie. C'est autre chose, c'est à un autre niveau de la peur, de l'angoisse. Et en effet, le second moment de vérité exemplaire pour moi, et qui ressemble beaucoup au premier, c'est dans Proust, la mort de la grand-mère, dans Du côté de Guermantes. Cette mort, si vous vous rappelez, n'est nullement dramatique. Elle n'est pas décrite d'une façon dramatique. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un portrait ou un tableau à la Greuze. Et ça n'est pas non plus une mort réaliste, qui serait la copie stricte d'un référent. Probablement, biographiquement, il y a plusieurs origines à cette mort de la grand-mère du narrateur. Il y a la mort de la grand-mère réelle de Proust, la mère de sa mère, Madame Latéveille. Il y a aussi des éléments de la mort du père de Proust et puis des éléments de la mort de la mère de Proust. Voilà donc pour moi, quand je pense au roman et ce qui au fond rachète tous les romans pour moi, c'est que dans le roman, il puisse exister de tels moments de vérité. Et je ne peux croire, peu m'importe que le roman soit en crise historique, du moment que la lecture me donne ces moments de vérité, et tant que ces moments me seront donnés dans quelquefois ce que je lis, eh bien, je croirai toujours au roman. Je voudrais seulement dégager deux déterminations qui intensifient jusqu'à l'intolérable le moment de vérité. Premièrement, ce qui peut être écrit de la mort, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans les exemples que j'ai donnés, ce qui peut être écrit de la mort, c'est le mourir. C'est le mourir. Et le mourir peut être long. Et Proust a admirablement dit les épisodes, les degrés, les passages du mourir. Je veux dire qu'à chaque moment du récit de la mort de la grand-mère, il a donné un supplément de concret, je ne trouve pas d'autre mot, comme s'il allait à la racine du concret. Par exemple, avant la mort, la petite attaque de la grand-mère au jardin des Champs-Élysées, sa rougeur, la main qu'elle met devant sa bouche, et pendant la maladie, cette sorte d'épisode absolument poignant, le peignage douloureux des cheveux par Françoise, etc. Pourquoi est-ce que c'est vrai et non pas réel ou réaliste? Parce que cette radicalité du concret, je dirais, en sachant donner le concret absolu et radical, l'écrivain désigne ce qui va mourir. Plus c'est concret, plus c'est vivant, et plus c'est vivant, plus cela va mourir. Peigner les cheveux de quelqu'un qui va mourir, c'est le déchirement absolu. Parce que ses cheveux sont encore vivants, ils sont vivants. Mais ils vont mourir. C'est le utsuroi japonais, une sorte de plus-value énigmatique qui est donnée par l'écriture et qui justifie intégralement, en dehors de toute théorie, l'écriture. Deuxième remarque, c'est la grand-mère qui meurt. Sa mort discursivement centrale dans la recherche, en fait, articule ce qui s'écrit avant, c'est tout au moins mon impression. C'est-à-dire tout ce qui concourt au portrait de la grand-mère, notamment dans le jardin de Combray au début, participe à cette sorte de concret éminent d'émotions violentes, de compassion qui va dresser le moment de vérité. C'est-à-dire que si vous prenez les premières pages de la recherche sur Combray, n'est-ce pas ? Sur la maison de la tante Léonie, vous pouvez très bien à ce moment-là, si vous lisez d'une façon distraite et surtout sans connaître la suite, vous pouvez faire une sorte de portrait psychologique de la grand-mère. Vous allez dire, on voit très bien, c'est pas un devoir d'écolier là-dessus, faites le portrait de la grand-mère, eh bien elle aime la nature, elle a des idées pédagogiques, elle est un peu à part de sa famille, elle est humble de cœur, etc. Mais tout cela et ou serait ennuyeux, cela ne rendrait pas compte du lien incomparable que j'ai avec elle, et ce lien qui est très ténu et qui est pour moi déchirant, et c'est encore le concret absolu. Par exemple, quand on fait boire du cognac à son mari, et quand Proust dit « relevant ses mèches désordonnées et grises », et plus loin, ma pauvre grand-mère entrait, priait ardemment. Ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant. Et ça, c'est son beau visage, aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge, presque mauve comme les labours de l'automne. Eh bien, je dirais que tout cela, dès le début, dit, en un sens, qu'elle va mourir, et que le concret du corps au jardin est le même que celui du corps qui est malade et qui meurt, et sont de même étoffe, les joues, ses joues mauves et brunes, et les cheveux que Françoise peigne. Ces deux moments de vérité que j'ai cités sont des moments, évidemment, cela se voit, de mort et d'amour. Et peut-être qu'il faut cela pour faire un moment de vérité. Peut-être que pour faire un moment de vérité, il faut de la mort et de l'amour. Et je pense à d'autres moments de vérité, pour moi, dans mes lectures, moins fort sans doute. Je pense par exemple à la description que Gide a faite de sa femme qui était morte, Madeleine, dans « Et nunc manet in te ». Et aussi, il y a de ce que j'appelle du concret déchirant, la description des mains de Madeleine, l'épisode où elle remonte à chaque semaine l'horloge de l'escalier. Il se passe toujours la présence d'un concret mémorable. Et j'ai dit aussi d'ailleurs que je considérais comme un moment de vérité certains épisodes inattendus. Par exemple celui de l'automate dans le Casanova de Fellini. Bon, c'est très difficile de dire pourquoi je suis atteint à ce moment-là. Je peux évidemment donner des éléments. L'automate est fardé, c'est une jeune femme, n'est-ce pas, qui est un automate et qui est fardée, sa minceur, la fleur plumée qu'elle a, une fleur emplumée qui est en haut, les gants blancs qui sont mal ajustés, le geste du bras trop haut, tout ça, je sais pas, je sens que c'est de ce côté-là. Donc, moment de vérité, qu'est-ce que c'est? Au plan du sujet, c'est un arrachement émotif, un cri viscéral, sans expression hystérique. C'est-à-dire que le corps rejoint la métaphysique, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui essayent de transcender la souffrance humaine. Dans le moment de vérité, le sujet lisant touche à nu ce que j'appellerais le scandale humain, que la mort et l'amour existent en même temps. Qui pourrait faire dire que Dieu n'aurait pas dû créer la mort et l'amour. Qu'il crée l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et deuxièmement, au plan de l'écriture, le moment de vérité implique évidemment une solidarité, une compacité, une fermeté de l'affect et de l'écriture comme un bloc intraitable. C'est-à-dire, le moment de vérité n'est pas dévoilement, ce n'est pas la minute de vérité, c'est pas du tout ça. C'est au contraire surgissement de l'ininterprétable, c'est-à-dire du dernier degré du sens, de l'après-quoi plus rien à dire. D'où la filiation avec le haïku et l'épiphanie. Et ces deux plans, celui du sujet qui souffre et celui du sujet qui lit, n'en font qu'un au niveau d'une notion pour laquelle, malheureusement, il n'y a qu'un mot absolument déjeté, mais c'est comme ça dans nos civilisations. Les choses importantes ne peuvent se dire que par des mots démodés, finalement, je le crois de plus en plus, et ce mot, ça serait la pitié. C'est un très mauvais mot. Qui oserait aujourd'hui, notamment dans un journal, parler de pitié? Tout au plus, admettons le mot, s'il s'agit d'avoir pitié d'un animal. La pitié d'un animal, mais ça ne peut pas dépasser le règne animal, la pitié. Mais pitié, après tout, c'est un mot antique. C'est l'affect écrit en tant qu'il justifie la catharsis, c'est-à-dire finalement la tragédie. Le moment de vérité, c'est quand la chose même est atteinte par l'affect. Et nous sommes ici historiquement, je dirais, dans le pré-socratisme, c'est-à-dire dans une autre pensée réactive, non dans le ressentiment, non dans le péché, non dans la contestation. Le moment de vérité, ce serait le moment de l'intraitable, où on ne peut ni interpréter, ni transcender, ni régresser. Amour et mort sont là, c'est tout ce qu'on peut dire. Je voudrais, si vous voulez bien m'accorder, je sais que c'est long, mais encore 5 ou 10 minutes, n'est-ce pas, pour que j'ai fini, Ceux qui veulent partir peuvent le faire sans que j'imagine que c'est parce qu'ils s'ennuient. Alors, je voudrais, pour en terminer avec le moment de vérité, dire un mot plus méthodologique qui va suggérer comment le moment de vérité n'est pas ou peut, pourrait, disons dans un développement, ne pas être simplement une impression subjective et arbitraire, comme je l'ai décrite jusqu'à maintenant, mais pourrait se rattacher à un concept général, et ceci pour compenser un peu l'extrême imprudence qu'il y a à parler de vérité en dehors d'un système qui dise comment la fonder. Et c'est bien mon cas, je suis complètement à découvert, je ne fonde pas la notion de vérité. Je dirais que la notion de moment de vérité a sans doute un rapport sur le plan donc de l'analyse intellectuelle avec deux notions antérieures et historiques. La première qu'on pourrait prendre chez Diderot et chez Lessing, c'est une notion qui vaut pour des problèmes de dramaturgie, c'est ce qu'on appelle alors l'instant prégnant. Je crois vraiment qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, c'est très important. L'instant prégnant, n'est-ce pas, pour Diderot, c'est le condensé de sens qui emporte l'émotion et la croyance du spectateur. Par conséquent, ça peut être un geste, n'est-ce pas ? Les exemples de Diderot étaient évidemment, c'était des exemples de son époque, que maintenant nous ne comprenons pas très bien, mais il les prenait par exemple dans des tableaux de Greuze, où tel geste, le geste de bénédiction du père qui va mourir à ses enfants, c'est un instant prégnant, parce que dans un geste se condense toute une situation et tout un sens, toute une interprétation. Et plus loin, après Diderot, une notion qui pourrait avoir des rapports avec le moment de vérité, ça serait chez Brecht la notion de gestus social. Le gestus social, c'est la vérité sociale d'un épisode, d'une anecdote, la vérité des rapports sociaux engagés dans un épisode représenté sur le théâtre, et vous savez que pour Brecht c'était extrêmement important, qu'il a pensé tout son théâtre et surtout toutes ses mises en scène, quand il les a faites lui-même, pour faire sortir le gestus social. Donc nous aurions, si vous voulez, une espèce de trois termes, le gestus moral avec Diderot, le gestus social avec Brecht, et je dirais le gestus affectif, le moment de vérité, avec moi, si j'ose dire. Et le moment de vérité aurait rapport avec ce qu'on appelle effectivement les formes prégnantes. Il se trouve que René Thom, le mathématicien des catastrophes, la notion de catastrophe, parlant du langage, dans une interview donnée à la revue Ornicard, dit: une forme est prégnante si le sujet observant est en une certaine mesure capable de s'y identifier en un sens que je dirais symbolique. Ou une forme est prégnante si elle suscite des réactions dont l'intensité est tout à fait disproportionnée du point de vue quantitatif avec l'intensité du stimulus. Alors, je crois qu'on est dans la région du moment de vérité. Et j'aborde là tout à fait la fin du cours. Pardon. Donc, je reviens pour terminer à ce complexe projectif et prospectif où il y a mélangé la notation, le haïku, l'épiphanie, l'incident et aussi le moment de vérité et le roman à l'avenir. Tout d'abord, ceci. Il ne serait pas impossible de théoriser une lecture et donc une analyse, une méthode, une critique qui s'occuperait ou qui partirait des moments de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un second souffle à l'analyse structurale, par exemple des récits, qui serait au lieu d'essayer de découper en unités sémantiques, comme j'ai fait à propos de la nouvelle de Balzac, n'est-ce pas ? On partirait à neuf, d'une façon très, très différente, de la notion de moment, des moments de l'œuvre, des moments forts, des moments de vérité, ou, si l'on ne craint pas le mot, des moments pathétiques, avec le lien avec le tragique. Et donc, on pourrait imaginer, très bien, mais quel tollé, bien sûr, une critique pathétique. Ah, une critique pathétique. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'unités logiques, on partirait d'éléments affectifs. Et on pourrait aller jusqu'à une discrimination des valeurs ou de la valeur de l'œuvre selon la force des moments ou d'un moment. Par exemple, tout le Casanova de Fellini, je ne l'aime pas en général, c'est un film que je n'aime pas beaucoup. Mais l'épisode de l'automate a constitué pour moi un moment de vérité. Ça a fait tilt. Alors, cette critique s'habituerait à analyser les œuvres d'une façon très différentielle, intérieurement différentielle. Et bien entendu, à ce moment-là, dans cette critique pathétique, il n'y aurait aucune acception de goût culturel. Enfin, je sais très bien que pour moi, dans le roman d'Alexandre Dumas, Monte Cristo, dont d'ailleurs j'ai pensé aussi faire un cours là-dessus, il y a des éléments pathétiques. Il y a des éléments pathétiques, même si c'est un roman, disons, en gros vulgaire. Donc, cette critique pathétique, elle accepterait de dépiécer l'œuvre, de ne pas en respecter le tout, d'abolir les parts de cette œuvre, de la ruiner pour la faire vivre. Le roman, en effet, puisqu'il s'agit de lui, dans sa grande et longue coulée, ne peut soutenir la vérité du moment. Il n'est pas possible de faire un roman qui ne soit qu'un moment de vérité. Ce n'est pas d'ailleurs sa fonction. Pour moi, je me représente le roman comme un tissu, tissu se dit texte, c'est le même mot, comme un tissu, une vaste et longue toile peinte d'illusions, de leurres, de choses inventées, de faux. Si l'on veut, une toile brillante, colorée, le voile de ce que, chez les bouddhistes, on appelle la maya, le voile des formes, colorantes, brillantes, séduisantes. Mais ce voile de la maya, il est ponctué, clairsemé de moments de vérité qui en sont la justification absolue. Eh bien, quand je produis des notations, moi qui ne suis pas encore dans le roman, et qui peut-être, et qui probablement n'y serai jamais, mais tout de même, quand je produis des notations, et cela en vue d'un roman hypothétique, je dirais, et vous n'allez pas prendre ça pour une déclaration prétentieuse, je ne crois pas, je dirais que quand je produis des notations, elles sont toutes vraies. Je n'invente jamais, je ne mens jamais au niveau de la notation. Je ne mens jamais, mais précisément, c'est peut-être parce que je ne mens jamais que je n'accède pas au roman. Le roman commencerait non pas au faux, mais plus subtilement, quand on mêle sans prévenir, le vrai et le faux. Le vrai criant absolu du moment de vérité et le faux colorié, brillant, venu de l'ordre du désir et de l'imaginaire. Le roman serait, et là il faut employer un adjectif grec, il serait poikilos, poikilos. P-O-I-K-I-L-O-S. Poikilos veut dire bigarré, varié, tacheté, moucheté, couvert de peinture de tableau, vêtements brodés, compliqués, complexes. La racine de poikilos est la même qu'on trouve en latin dans pingo. Peindre, n'est-ce pas, broder avec des fils différents et tatouer, même racine que dans pigmentum. Et ça serait rattaché à une racine indo-européenne qui est peik, P-E-I-K, qui veut dire orné. Et alors, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire étymologique. Orné, peik, en indo-européen, qui veut dire orné, soit en écrivant, soit en étendant de la couleur, c'est très beau, n'est-ce pas? Soit en orné, soit en écrivant, en inscrivant, soit en étendant de la couleur. Eh bien, ce serait ça le roman. Ce serait du poikilon, c'est-à-dire un hétérogène, un hétérologique de vrai et de faux. Et peut-être donc, ce sera vraiment mon dernier mot, parvenir à faire un roman, puisque telle est la perspective et le point de fuite de notre cours, eh bien, parvenir à faire un roman, c'est au fond peut-être accepter de mentir. C'est parvenir à mentir. Et ce peut être très difficile de mentir. Peut-être qu'il est beaucoup plus difficile de mentir que de dire la vérité. Et d'autant que dans ce cas-là, il s'agit ou il s'agirait de mentir de ce mensonge second et pervers qui consiste non pas à dire le faux, mais à mêler le vrai et le faux. Et en définitive alors, la résistance au roman, l'impuissance au roman ou à sa pratique, qui est la mienne actuellement, car je lutte, et tout le cours a été un peu le spectacle de cette lutte contre mes propres limites, donc la résistance au roman, l'impuissance au roman serait finalement peut-être une impuissance morale. Voilà. C'est terminé. Le sujet du cours de l'année prochaine n'est pas arrêté. Je pense que de toute manière, c'est pas très grave parce que finalement, on fait toujours le même cours, n'est-ce pas? De quelque façon qu'il s'appelle. Il faudra donc vous reporter aux affiches. Il est probable que le premier cours de l'année prochaine, premier cours et le premier séminaire, auront lieu le 1er décembre. Toujours le samedi matin. Merci.